Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a aussi ce passage que j'aime beaucoup. Moi, c'est toujours dans le livre 10e, au chapitre 27, paragraphe 38. Je vous ai aimé tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je vous ai aimé tard. Mais quoi, vous étiez au dedans, moi au dehors de moi-même, et c'est au dehors que je vous cherchais, et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. Vous étiez avec moi, je n'étais pas avec vous. Retenu loin de vous par tout ce qui, sans vous, ne serait que néant. Vous m'appelez, et voilà que votre cri force la surdité de mon oreille. Votre splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Votre parfum, je le respire, et voilà que je soupire pour vous. Je vous ai goûté, et me voilà dévoré de faim et de soif. Vous m'avez touché, et je brûle du désir de votre paix. Donc finalement, on est à l'extérieur de nous-mêmes parce qu'on recherche toutes ces choses par les sens externes, et ça ne nous satisfait jamais. Et enfin, on découvre que à l'intérieur de nous-mêmes, ce Dieu incorporel réactive tous nos sens en les sublimant, en les rendant spirituels. Hein, sa doctrine des sens spirituels. Alors là, pour le coup, c'est Saint Bonaventure qui va beaucoup développer cette idée-là, mais aussi Saint Ignace de Loyola, par exemple. Alors après. Par exemple, il parle de nos misères. Quand je vous serai uni de tout moi-même, plus de douleur alors, plus de travail. Ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de vous. L'âme que vous remplissez devient légère. Trop vide encore de vous, je pèse sur moi. Mes joies déplorables combattent mes tristesses salutaires. Et de quel côté demeure la victoire? Je l'ignore. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi. Mes tristesses coupables sont aux prises avec mes saintes joies, et de quel côté demeure la victoire, je l'ignore encore. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi, pitié, Seigneur, vous voyez, je ne vous dérobe point mes plaies. Ô médecin, je suis malade, ô miséricorde, voyez ma misère. Ah, n'est-ce pas une tentation continuelle que la vie de l'homme sur la terre? Ça, c'est la citation de Job, là, en disant que notre vie est une milicia. Hein.
Une
Milice. Qui veut les afflictions et les épreuves? Vous ordonnez de les souffrir et non de les aimer. On n'aime point ce que l'on souffre, quoi qu'on en aime la souffrance. On se réjouit de souffrir, mais on choisirait de n'avoir pas tel sujet de joie. Vous voyez, c'est quand même très, très juste, hein? Dans le malheur, je désire la prospérité. Heureux, je crains le malheur. Entre ces deux écueils, est-il pour la vie humaine un abri contre la tentation? Malheur, oui, malheur aux prospérités du siècle livrées à la crainte de l'adversité et aux séductions de la joie. Malheur, trois fois malheur aux adversités du siècle livrées au désir de la prospérité. Dur à souffrir, écueil où la patience fait naufrage. N'est-ce pas une tentation continuelle que la vie de l'homme sur la terre? Non, c'est pas faux. Hein. Alors après, je termine le dernier passage, toujours dans le livre 10. La grâce est notre seul appui, dit-il. Et toute mon espérance n'est que dans la grandeur de votre miséricorde. Donnez-moi ce que vous m'ordonnez et ordonnez-moi ce qu'il vous plaît. Vous me commandez la continence et je sais, dit votre serviteur, que nul ne peut l'avoir si Dieu ne la lui donne. Et savoir même d'où vient ce don en est un de la sagesse. La continence nous recompose et ramène à l'unité les fractions multiples de nous-mêmes. Car ce n'est pas assez vous aimer que d'aimer avec vous quelque chose que l'on n'aime pas pour vous. Ô amour toujours brûlant sans jamais s'éteindre, amour, mon Dieu, embrasez-moi, vous m'ordonnez la continence, donnez-moi ce que vous m'ordonnez et ordonnez-moi ce qu'il vous plaît. Alors, vous savez que la continence et Augustin, ça a été une longue histoire. Hein. Mais il y a quand même cette phrase qui est très belle, hein, qui dit, car ce n'est pas assez vous aimer que d'aimer avec vous quelque chose que l'on n'aime pas pour vous. Donc il faut tout aimer en Dieu et pour Dieu. Hein. Autrement dit, à chaque fois, il faut avoir le regard de Dieu sur toute chose ou toute personne. Dès qu'on commence à aimer les choses pour soi, en fait, on devient avare en quelque sorte, on se les approprie, on les soustrait à Dieu, Et en fait, finalement, on se fait du mal. Ah, voilà. Donc, c'est la sagesse de Saint-Augustin, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je parlais des confessions. Voilà, quelques passages des confessions. Il y a encore un peu de temps. Alors, parlons un petit peu maintenant de ces écrits bibliques. Alors, comme vous l'avez vu, la Bible, de toute manière...
Donc, il a arrêté donc, son livre lorsqu'il est devenu évêque, donc lorsqu'il a pris des fonctions très prenantes.
Voilà, c'est ça. Il a arrêté de raconter sa vie. Mais sa vie, elle ressort un peu. Il y a des éléments autobiographiques qui ressortent, par exemple, dans les sermons. Parfois, il dit des choses qui le concernent. Voilà. Vous voyez que la Bible est partout présente dans ses écrits. Et pourtant, vous vous souvenez que ce n'était pas évident pour lui, parce qu'il avait été rebuté par le contenu parfois scandaleux, notamment de l'Ancien Testament, et le style rugueux de l'hébreu traduit en mauvais latin. Et finalement, il comprend qu'à la kénose du verbe divin dans une humanité quand même très étroite, correspond finalement la kénose de la parole dans ce livre. Et la kénose du verbe, eh bien, dans l'incarnation, va avoir pour correspondance la kénose de la parole dans le livre révélé. Autrement dit, la pauvreté linguistique de la Bible est encore une démonstration de sa vérité. Et c'est Ambroise, comme je l'avais dit, qui l'avait mis sur la voie qui lui permettait d'échapper aux objections qui lui paraissait insurmontable sur l'Ancien Testament à travers le procédé de l'allégorie, de la transposition allégorique de l'Ancien au Nouveau Testament. Autrement dit, et aussi la même chose par la typologie, c'est-à-dire tel personnage de l'Ancien Testament est en fait une figure annonciatrice du Christ. Et donc, finalement, l'Ancien Testament n'est vraiment lisible que pour un chrétien. Et par exemple, une fois, de Lubac dira que finalement, les Juifs ne peuvent pas comprendre leurs Écritures et que seuls nous pouvons les comprendre. Nous les comprenons mieux qu'eux, même s'ils savent l'hébreu, et même s'ils savent plein de petites choses, mais ils les comprennent à leur niveau. Tandis que nous les comprenons au niveau pour lequel, finalement, ces écritures ont été écrites. C'est-à-dire au niveau du Christ.
Vous voyez, avec sur Benoît XVI, dans le Figaro aujourd'hui, Benoît XVI a parlé de ça.
C'est
dans la croix aussi. Et ça crée une petite polémique entre eux.
Ah, bah oui. Mais ça.
C'est ce que j'ai vu aujourd'hui dans la presse.
C'est ça. En fait.
Les théologiens allemands ont dit cette.
En fait, on pourrait dire que nous, on a une connaissance verticale de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on en sait certainement beaucoup moins. Mais tu disais déjà, Saint Thomas d'Aquin, il disait qu'une petite vieille, une vétula napolitaine, en sait plus sur l'Ancien Testament, si elle a compris que l'Ancien Testament parle du Christ, que tous les rabbins rassemblés. Alors que certainement, on peut accumuler une science considérable sur tous les détails, etc., etc. Ils ont une connaissance horizontale que nous n'avons pas, et que ce serait même stupide de vouloir leur disputer. Mais nous savons, par exemple, de qui David est le type. Eux, ils ne le savent toujours pas. Ils savent que c'est le Messie. Voilà. Mais nous, on sait de qui est David. Nous, on sait qui est Abraham, etc., etc. Parce que toutes ces figures, elles pointent vers le Christ. Il y a un petit livre qui m'avait amusé quand j'étais aux études de Adrienne von Speyer, qui était une mystique, qui était la grande amie de Hans von Balthasar, qui avait écrit un petit livre, enfin, spirituellement, hein, qui lui avait été dicté, en somme, qui s'appelait « Die Sendung der Propheten », c'est « La mission des prophètes ». Et en fait, il y a 33 figures qui sont croquées en 2 pages, à peu près, et qui, finalement, sont comme 33 arches qui se résolvent dans le Christ, vous voyez. 33 approches vétérotestamentaires qui, typologiquement, parlent du Christ. Et 33, hein, c'est l'âge traditionnel du Christ, hein, autrement dit. Toute la vie du Christ est quand même est constituée typologiquement par ces figures. Il y a le Blondel, vous voyez, Maurice Blondel, le philosophe de l'action. Eh bien, je crois que c'était dans sa thèse, donc pas dans l'action, mais autrefois il y avait des thèses complémentaires. Hein. Dans sa thèse complémentaire, il avait, donc qui était en latin du reste, il avait travaillé sur le vinculum substantiale de Leibniz. Et donc le lien substantiel qui tient toute chose. Et il avait fait une analogie avec le panthéon d'Agrippa, qui a reconstruit au IVe siècle, dans le IIIe, je ne sais plus, à Rome. Là. Vous voyez le cube avec dessus une demi-sphère. Panthéon, quoi. Et ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le remarquais bien, parce que de la terrasse du séminaire, on était au niveau du sommet de la demi-sphère, précisément. Et en fait, enfin, vous le savez aussi parce que vous êtes rentré à l'intérieur, vous savez que c'est en fait, il y a rien. Hein, c'est un trou de 12 ou 20 mètres de diamètre. Et en fait, on pourrait se dire, construisez un dôme et vous ne le finissez pas, paf, ça va s'effondrer. Et en fait, non, ça ne s'effondre pas. Parce qu'il y a une sorte de cercle de... Enfin voilà, toutes les pierres reposent les unes contre les autres et elles se tiennent les unes contre les autres et elles permettent d'alléger la coupole, hein, avec ce trou, donner la lumière, enfin tout ce que vous voulez. Mais Blondel disait, c'est une allégorie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en fait, il converge vers un but, mais ce but, il ne l'atteint pas. Et sa consistance, c'est précisément ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce vide qu'il n'est pas. Hein. L'Ancien Testament, c'est toute cette matière qui converge vers un but, mais qu'est-ce qui fait tenir ce but ? Ben, c'est précisément quelque chose qui n'est pas, c'est ce vide. Et ce vide, c'est évidemment le Nouveau Testament, c'est le Christ, qui est insaisissable dans sa transcendance. Et c'est cette transcendance qui fait tenir toute cette espèce d'édifice, en quelque sorte, qui lui donne finalement sa cohérence, etc. Mais autrement dit, l'Ancien Testament ne peut pas se comprendre par lui-même. Il restera, et Henri de Lubac écrit ça merveilleusement en disant que les écritures des Juifs resteront éternellement pour eux une énigme, à moins qu'ils en saisissent ce pourquoi elles ont été écrites, mais qui dépasse alors l'économie qui est la leur, hein, c'est-à-dire l'économie vétérotestamentaire. Oh, bah, c'est à mon avis ce que disent tous les catholiques. Ah ben bah, oui, la fille de la sœur de. Oui, oui. Mais oui. Mais c'est en général, c'est ce que découvrent émerveillés tous les Juifs qui se convertissent, hein, c'est que Lustiger, Stein, etc. Tout ça, c'était comme un marchepied vers un au-delà. Et on passe à un autre ordre, en fait. C'est pas une question, comme dirait Pascal, c'est une question d'ordre. Voilà. Et alors aujourd'hui, on aurait tendance parfois un petit peu à se prosterner devant les frères aînés, hein, n'est-ce pas, devant le premier testament, puisqu'on a du mal à dire l'ancien. Pourtant, Saint Paul le dit. Ben oui. Saint Paul dit bien qu'il a été périmé. Hein. L'épître aux Hébreux aussi. Je me souviens que le cardinal Van Hoa, qui a passé sa vie à étudier l'épître aux Hébreux, disait qu'il avait un peu de mal à comprendre qu'on dise pas l'ancien, parce que c'est quand même bien ça. Alors, ensuite, donc voilà, le rapport d'Augustin à l'écriture, c'est grâce à saint Ambroise qui va vraiment le découvrir. Et puis, il va croire à l'écriture sur l'autorité de l'Église. Et c'est là il y a toute sa réflexion. On dit finalement, ce qu'on sait, on le sait sous l'autorité des anciens. La plupart des choses qu'on sait, on les a reçues. On les a reçues de gens qui ont manifesté envers nous leur bonté. Et donc, c'est parce qu'ils sont bons avec nous qu'on a des bonnes chances de penser qu'ils sont vrais aussi, qu'ils sont véridiques. Et si l'Église nous propose l'Écriture, l'Église qui est notre mère, eh bien, il n'y a pas de raison de la rejeter. Alors, néanmoins, il dit qu'il faut étudier la nécessité de l'étude des sciences auxiliaires pour bien la comprendre. Donc, linguistique, littérature, histoire, philosophie, logique, sciences naturelles, etc. Donc, il convoque tout ça pour avoir une meilleure connaissance des Écritures. C'est d'ailleurs la base du discours que fera Benoît XVI au discours des Bernardins, en disant c'est justement pour mieux connaître les Écritures que les moines ont été poussés à étudier toutes ces choses, et que, comme par surcroît, on est sorti toute la technique et la science occidentale moderne.
Et la musique.
Oui, la musique en particulier.
Elle avait dit la musique.
Oui. Alors, pour bien vous montrer que l'écriture compte pour lui, c'est qu'il a quand même laissé 600 sermons, dont pour la plupart sur l'écriture sainte. Il y a des panégyriques de temps en temps, mais qui sont complètement farcis d'écriture sainte aussi. Mais 600 sermons, vous voyez, et encore, on ne les a pas tous. Hein. On en découvre continuellement. Des traités aussi, qui sont des commentaires bibliques. Par exemple, les Enarrationes in Psalmos, c'est des explications sur les psaumes, qui sont en fait une explication christologique des psaumes. Hein. Comment les psaumes parlent du Christ ? Comment le Christ parle dans les psaumes. Alors, comme dit Augustin, comme fils de Dieu, comme homme individuel qui peut se plaindre ou louer, comme représentant de l'humanité et comme représentant de l'Église. Donc le Christ est tout ça à la fois dans les psaumes. Il donne aussi ses explications sur saint Jean, les Enarrationes Ioannis Evangelium ou in Ioannem, 124 exposés, 124 traités. Et là aussi, derrière l'idée christologique, hein, comment finalement tout l'évangile de saint Jean, c'est pour que nous croyions dans le Christ. Hein, les deux conclusions des deux parties, c'est pour que vous ayez la foi en Jésus. Et donc voilà, montrer comment Jésus est Dieu. Donc voilà ce que Augustin va développer. Et puis, la christologie et la sotériologie. Au début, pour saint Augustin, quand il est encore en recherche, le Christ, c'est surtout une personne humaine. Voilà, un exemplum. Hein. Dans sa lettre 137, en 411, il écrit Christus una persona in utraque natura. Voilà. Le Christ est une seule personne en deux natures, en l'une et l'autre nature. Et il va de plus en plus prendre conscience de la divinité du Christ, médiateur du salut. Donc il faut qu'il soit à la fois. Médiateur, ça ne veut pas dire tertium quid, hein, c'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais c'est plutôt celui qui fait le grand écart, qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Le Fils de Dieu devient vraiment homme pour amener les hommes à Dieu, et c'est l'Église qui est le Christ total. Hein, l'idée de Christus totus, ça vient d'Augustin. Et ça répond aux donatistes qui critiquaient l'Église en disant qu'elle n'était pas sainte. Et il dit, mais si l'Église est sainte, dans la mesure où elle est le Christ total, mais avec des membres qui ne le sont pas nécessairement. Et aux Pélagiens aussi, parce que la grâce n'est donnée que par incorporation au Christ total. Donc c'est l'idée de grâce habituelle. Hein. Donc, et d'appartenance, comme il dira, il y a l'appartenance des visous, hein, l'appartenance par les sacrements, donc on a la grâce habituelle, mais il dit il y a des membres morts dans ce corps vivant qu'est l'Église, c'est ceux qui ont renoncé à la grâce tout en étant apparemment membres de l'Église, puis il y a ceux qui font partie de l'Église invisiblement, parce que justement ils agissent bien et que sous l'influence de la grâce actuelle, eh bien, leurs actes sont méritoires pour le salut, donc ils sont finalement des chrétiens qui s'ignorent en quelque sorte. Voilà un peu pour ça. Et, bah, écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est l'heure. Et après, on finira la fois prochaine sur les autres œuvres de Saint-Augustin. Je sais pas, je pense qu'on en finira. Thank you.